petite indication sur le déroulement de l'étude. Vraiment, c'est que nous sommes donc dans la paracha de Trouma, et la semaine dernière, si je me souviens bien, qui était la paracha de Mishpatim, nous avons étudié la paracha de Shkalim, okay, qui en réalité était le maftir de la paracha de Mishpatim d'après le calendrier, et la paracha de Shkalim, c'est en réalité le début de la paracha de Kitissa. Donc, là, pour tout le monde. Et vous savez qu'à la semaine prochaine, ou pas la semaine prochaine, dans deux semaines, après tout ça, lorsque nous étudierons Kitissa, d'étudier un autre thème que le début de la paracha, que le problème du prophète, qu'on a étudié déjà. Bien, et rappelez-moi donc, à la fin du cours, je vous donne deux textes à lire au moins, à préparer pour la paracha de Kitissa. Ça vous avancera si vous l'avez lu à l'avance. Quand vous aurez 15 jours, rappelez-moi aussi de vous le rappeler la semaine prochaine. Bien, vous vous rappelez qu'à des cours précédents, nous avons eu une analyse de la première partie du livre de Shmot à propos du thème des Shoravim, qui rassemble toutes les sidrotes depuis le début de Shmot jusqu'à la fin de Mishpatim. Vous vous rappelez de cela? Et entre autres choses, ce qui se dégage, c'est que l'objectif de la sortie d'Égypte et de l'accomplissement des promesses concernant la sortie d'Égypte était de revenir au pays des Avot, au pays des patriarches, et avec pour objectif, ce qui se dévoile maintenant avec la paracha de Trouma, de construire le Beth Amigdash. Bien entendu, pour construire le Beth Amigdash, il faut construire Jérusalem d'abord. Même j'enlève d'abord, il faut construire Jérusalem. Pour construire Jérusalem, il faut le pays d'Israël. Et donc il y a tout un programme, mais qui a son point culminant dans la construction du Beth Amigdash. En particulier, il y a un Midrash. Je ne sais plus si c'est dans le Midrash Rabba ou dans le Midrash Tanhuma. Vous vérifierez par vous-même. C'est maintenant des petits problèmes de mémoire. Mais qui dit que dès qu'Israël, au pied du Sinaï, ça nous l'avons appris à la paracha de Yitro, a dit « Kol asher diber Hashem na'ase », immédiatement Dieu a dit à Moïse « Veikruli Trouma ». Veshachanti betocham, Veasuli Mikdash, Veshachanti betocham. Le verset que nous allons étudier, un des versets que nous allons étudier tout à l'heure. C'est-à-dire, dès qu'Israël accepte le principe d'être le peuple de la Torah, je dis bien, je n'ai pas dit dès qu'Israël accepte la Torah, c'est un autre thème, mais dès qu'Israël accepte le principe d'être le peuple de la Torah, le premier message que Moïse a transmis à Israël au Sinaï, c'était Vatem ki yuri v'nechet kohanim v'goy kadosh, et vous serez pour moi une royauté de kohanim, en tant que prêtre, puisqu'on parle français, on va dire prêtre, et v'goy kadosh est une nation de la sainteté. Nous avons étudié une fois un texte du Rav Harlap, que je vous ai peut-être rappelé à ce propos, qui indique que la première partie de ce programme, de ce verset programme, Vatem ki yuri v'nechet kohanim, se rattache précisément à la Terouma, et je vais donc immédiatement expliquer le mot de Terouma, mais se rattache au rôle d'Israël par rapport au reste des nations de l'humanité. Vatem ki yuri v'nechet kohanim, si nous traduisons, et vous serez pour moi une société, une royauté, une société où chacun est roi, m'amnechet, on peut le comprendre à ce niveau-là, kohanim, des kohanim pour les autres nations, la première partie du verset, c'est le lien avec le reste de l'humanité. Vego Kadosh, c'est la définition d'Israël dans sa spécificité propre, dans son Beth Amigdash à lui. Et nous savons d'ailleurs à travers ensuite ce qu'on diront les grands prophètes, en particulier Isaïe, que le Beth Amigdash, c'est le Beth Amigdash d'Israël, mais comme tel, en tant que tel, il est aussi Beth Tefila Lechola Amin Lechola Goïm. Lechola Amin. Qui Bethi, Beth Tefila Ikare Lechola Amin. Il y a donc deux fonctions. Et ce qui fait la difficulté d'être Israël, et vous savez à quel point tous les penseurs qui étudient, les auteurs qui étudient ce problème de l'identité d'Israël dans sa difficulté d'être, arrivent difficilement à maîtriser ce thème, qu'il y a une dimension qui va vers l'universel et une dimension de spécificité. La formule, je crois, qui est la plus simple pour indiquer ce problème et que j'emploie très souvent, mais comme formule, si elle n'est pas comprise dans son contenu, elle risque de rester vide, c'est que la spécificité d'Israël, c'est précisément d'être universel. Mais enfin, ça risque d'être uniquement un arrangement de mots, si on ne voit pas très exactement ce qu'il y a dans ce contenu, mais c'est un autre thème. Et nous allons retrouver, dans l'étude de la paracha de Trouma, que nous allons commencer par les premiers versets, cette différence de relation et j'ai dit difficultés et les pièges et les dangers et les risques qu'il y a dans cette difficulté de relation qui définit le rôle d'Israël par rapport à l'ensemble de l'humanité. Nous allons comparer à propos de la même mitzvah deux textes différents que nous avons dans le livre de Shmot. D'abord le début de la paracha de Trouma, et je commencerai immédiatement à définir les termes, et ensuite le début de la paracha de Vayakhel. Nous allons comparer aujourd'hui, je me baserai là-dessus, sur un enseignement du Zohar à ce sujet. Alors, retenons donc ce premier thème, c'est que les récits que nous allons commencer à lire, c'est l'entreprise de la construction du Mishkan, c'est-à-dire l'endroit de la résidence, qui est préfiguration. Mishkan, c'est là où réside la Shrina, la présence de Dieu, bien entendu. Et en préfiguration du Bet HaMikdash, qui est la maison du sanctuaire, qui sera construite à Jérusalem. Le premier thème que je voudrais étudier, c'est une analyse d'introduction, si vous voulez, c'est entre autres fonctions du Bet HaMikdash, qu'on traduit par le temple, mais le mot est un petit peu trop imprécis. Littéralement, le Mikdash, c'est le sanctuaire, dans le sens strict, la maison où se dévoile la valeur de sainteté, Bet HaMikdash. Entre autres fonctions, donc, à travers le Midrash, quelle est l'importance du Bet HaMikdash dans l'histoire d'Israël, bien entendu, mais à travers l'histoire d'Israël, dans l'histoire de l'humanité tout entière, à l'intérieur de la cohérence de l'enseignement de la Bible tout entière, et en particulier de la Torah, et ça nous permettra, si vous voulez, de comprendre en particulier ce que disent beaucoup de Midrashim, que le jour où le Mishkan, en tant que préfiguration du Mikdash, du Bet HaMikdash, que le jour où le Mishkan a été construit, est un jour plus grand que celui de la création du monde. Vous trouverez ça dans les sources. Et si on ne sait pas ce qu'il y a, au moins un peu dans le contenu, on risquerait d'avoir uniquement la réaction de dire qu'il y a le style, je cherche mes mots, mais enfin vous comprenez l'idée, il y a un style midrashique. Ça veut dire un style un peu amphigurique, je ne sais plus comment dire en français, un peu hypertrophié, un peu exagéré, gouzma, comme on dit en hébreu, mais nous verrons que c'est beaucoup plus précis que ça, que c'est beaucoup plus important que ça. Ce sera donc la première partie de l'étude. Et nous commencerons immédiatement après avoir lu les premiers versets. Et dans la deuxième partie de l'étude, nous verrons qu'il y a deux programmes pour la construction du Mishkan. Et le premier programme est le deuxième. Je ne vais pas aborder tout de suite le contenu du sujet. Je veux dire, c'est la question suivante, qui doit construire le Mishkan? Qui doit participer à la construction du Mishkan? Et à partir de quelle valeur prise de l'existence du monde depuis son commencement jusqu'à ce temps-là de la sortie d'Égypte où le Mishkan aura pu être construit enfin, à partir de quelle valeur déjà présente dans l'histoire du monde et à tous les niveaux, premièrement les matériaux, c'est pourquoi la Torah va nous désigner très précisément les matériaux avec derrière les mots, les termes qui les définissent, les significations de valeur que cela représente, et donc à partir de quelle valeur de la valeur de l'identité humaine, le Mikdash peut apparaître. Et nous verrons qu'il y a deux programmes. Ça me mène tout de suite en première remarque à parler maintenant du plan de la deuxième partie du livre de Shmot. La première partie du livre de Shmot met en évidence, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, l'objectif de la sortie d'Égypte, parce que le temps est venu enfin, depuis le commencement de l'histoire du monde, de pouvoir construire un Mikdash. Il y aura une interruption de 40 ans dans le désert, pour les raisons qu'on apprendra à propos de Kitissa, à propos de la paracha de Kitissa, avec comme centre de l'événement la faute du Vaudor qui retarde de 40 ans l'entrée en Eretz Israël pour l'accomplissement ultime du programme des promesses, c'est-à-dire la construction du Mishkan. La construction du Mikdash, pardon, la deuxième partie du livre de Shmot, tout entière, et qui comporte 5 sidrotes que je vais vous énumérer, tout entière, est consacrée à ce problème de la construction du Mikdash, encore une fois au niveau de sa préfiguration provisoire dans les 40 ans provisoires du désert, où il est Mishkan. C'est d'abord la sidra de Terumah et de Tetzaveh, où nous avons toutes les prescriptions pour l'avancement de ce Mishkan. Et ensuite, la sidra de Kitissa, qui continue un peu ses prescriptions, mais où il y a une grande parenthèse qui va s'ouvrir, avec le récit de la faute du Vaudor. Ensuite, le citra de Vayakhel et celle de Pécoudé, qui reprendront tout le problème de la construction du Mishkan dans sa réalisation. Comment cela a été fait après la faute du Vaudor. Dans les deux premières citras, Terumat et Tzavé, c'est le projet de la construction du Mishkan, a priori de la faute qui va advenir, bien qu'on ne l'attende pas, bien qu'elle soit un peu pressentie, mais on ne l'attende pas vraiment comme fatalité, la faute du Vaudor qui va introduire une brisure, une interruption, une parenthèse. Et alors ce premier projet va changer d'objectif, va être aménagé après la faute du Vaudor, et nous avons donc deux autres sidrotes, Vayakhel et Pécoudé, qui reprennent le récit de la réalisation a posteriori de ce que sera le Mishkan, avec en particulier l'émergence d'une des fonctions du Mishkan qui n'était pas tellement annoncée au début dans le premier projet, mais qui va être, qui va occuper une plus grande place et qui sera la fonction d'expiation. Vous devinez qu'énormément de thèmes se greffent et sont impliqués par cet enseignement de la Torah, et nous allons en choisir quelques-uns. Alors d'abord, le sens du mot Terumah, que nous avons étudié dans en lisant les premiers versets, avant que j'arrive à l'introduction. Attendez, avant cela, je voulais vous signaler que ce soir, il y a une conférence à 9h du professeur Assis sur le judaïsme espagnol. Alors, ceux qui ont l'intention de rester, pour ce que ça concerne, on fera arbitre, puisque c'est Rosh Chodesh ce soir, même si ce n'est pas Rosh Chodesh, on ne veut pas. Mais comme c'est Rosh Chodesh, Kal Vachomer à la 13e puissance, et pour les autres, vous pourrez attendre l'autre conférence à la cafétéria. Tout ceci pour dire que si je déborde un peu sur 8 heures, c'est pas grave parce qu'on se revoit à 9h. Alors, je reprends donc le mot de Terumah. Qui signifie une offrande. Une offrande par laquelle on participe à quelque chose. La racine, parce que nous allons voir qu'il y a deux verbes différents. On peut citer à propos du terme de Terumah. La racine, au niveau de la langue du Mikra, de la langue du texte de la Torah, c'est le harim. Le harim, ça veut dire prélever. En prélevant, élever. Mais c'est quelque chose que l'on prélève de ce que l'on possède pour le consacrer à. Alors le mot de Terumah vient d'abord de le harim. Le harim. Et Rachid, vous le verrez, je ne sais pas si on aura le temps ce soir, dit les afriches. C'est à peu près le même sens. Lorsqu'on prend la hala, la bracha, c'est les afriches. Okay. Mettre de côté, consacrer. Et le mot de perushim, c'est la même racine. Ceux qui, du dedans du peuple, arrivent à un certain degré où il est arrivé, ceux qui se consacrent sans se séparer, mais se consacrent à la pureté plus. On les appelle les perushim. Vous rappelez de cela. Bon. Et alors, à partir du mot de Terumah, on a construit un deuxième verbe, c'est Yitrom, qu'on emploie dans la langue moderne, pour dire contribuer à participer, à apporter une Terumah. Faites attention à ces deux niveaux linguistiques, c'est clair? Donc, Terumah vient d'abord de l'Eharim, et ensuite, à partir de la notion de Terumah, on a le verbe de Yitrom, contribuer, participer, par une Terumah. Apporter sa Terumah, sa contribution. Bien. Et encore deux autres mots, que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc, nous avons le verset important de Ve'asuli Mikdash Ve'shahanti Betocham. Je traduis, ils feront pour moi un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Alors, le mot de Mikdash se rattache à la racine Mikdash. Qui a énormément de sens en hébreu, mais le sens principal, c'est le lieu qui est suffisamment préparé pour qu'une présence apparaisse. Et on a l'habitude, vous savez, ici le français est très mal adapté à ce que nous voudrions dire en hébreu, mais on a l'habitude de dire le lieu de la résidence. Mais en français, ça veut dire tellement de choses différentes que j'espère que vous arrivez particulariser le sens des termes. Et là, le moins important, c'est Shekhina. Et d'autre part, le Mikdash. Finalement, la tradition a retenu une expression, c'est Tabernacle. Bon, le lieu de la résidence, le tabernacle, dans les traductions officielles. Et le lieu de la sainteté, le sanctuaire. Voilà donc les termes clés que nous aurons à utiliser. Bien. Alors, nous allons d'abord...
Pourquoi on parle tout de suite de Mishkan Mikdash?
Parce que, a priori, il était provisoire. De toutes les façons, le Mikdash a pour fonction d'être Mishkan. D'après le verset que nous avons donné, « Vehasuni Mikdash, Veshachanti Betoham ». Mais étant donné que va se creuser un temps provisoire, ce temps de nomadisme entre le Yesh de l'Égypte et le Yesh d'Israël, je crois qu'on a étudié une fois ce thème-là, il y avait un monde que, déjà dans, au moment du récit nous nous situons, nous pouvons dire un monde ancien, révolu, devenu préhistorique, le monde de l'humanité au temps où c'était la civilisation égyptienne qui était la civilisation humaine, un Yesh, c'est-à-dire un Iliya. Et puis ce Yesh s'est disqualifié par ses propres saturations violentes, je ne sais pas comment dire cela, ce Yesh s'est disqualifié, et alors on va construire un autre Yesh, qui sera le Yesh de l'entrée dans le pays de Canaan, qui va devenir le pays d'Israël. On va quitter la vocation de Joseph, qui est, dont la tentative était de sanctifier ce Yesh ancien de la civilisation égyptienne, vous rappelez les cours précédents, pour prendre la vocation de Judas, de construire le Yesh de la vocation d'Israël de façon tout à fait différente, pas en relation avec l'humanité extérieure, mais dans la spécificité propre de l'identité d'Israël. Entre ce Yesh et ce Yesh, un Aïn, un temps vide, si vous voulez, le désert, va s'introduire. Et il faut passer, pour passer de ce Yesh ancien au Yesh à venir, il faut passer par ce Aïn. Alors le Mishkan, c'est le Mikdash du Aïn. Alors que le Mikdash, c'est le Mishkan du Yesh. Je ne sais pas comment vous dire ça.
Alors on ne peut pas dire que c'est le même degré de sanctification.
C'est le même degré. D'ailleurs, cette génération-là était très privilégiée. Vous savez que c'est une génération très calomniée. En français, on a l'habitude de dire la génération du désert avec un sens très péjoratif. Ça veut dire condamné à l'avance, perdu, il n'y a rien à faire, c'est même pas la peine de les envoyer à l'Ultan. En réalité, c'est une génération que la tradition a définie à la hauteur où elle était, avec ses qualités et ses défauts, si vous voulez, comme une génération de grands. C'est, on l'appelle dans la tradition Dordéa, la génération de la connaissance. Et il faut le juger les événements d'après ce principe. En particulier, Maïmonide y a beaucoup insisté, mais vous le trouverez surtout les commentateurs. J'ai dit Maïmonide lui aussi, mais surtout Judas Lévi dans le Kuzari, un chapitre entier qui traite de la faute du veau d'or, et c'est là qu'il nous donne une argumentation très serrée à ce niveau. C'est le fait qu'il faut juger la grandeur d'une faute à ses propres mesures. Une faute est grande parce que l'homme qui la porte était grand. Sinon, c'est une petite chose, sinon, c'est une futilité, une peccadille. Vous comprenez, c'est clair l'idée. Et cette génération est une génération exceptionnelle. C'est elle qui a mérité la sortie d'Égypte. C'est elle qui a mérité, c'est-à-dire beaucoup de choses à la fois, qui a fait que cela soit possible. C'est elle qui a mérité la révélation de la Torah. C'est Dordéa. Et par conséquent, elle est éprouvée au niveau où elle se trouve. C'est bien clair. Et vous voyez qu'en hébreu, Dora Midbar ne peut pas avoir ce sens péjoratif des pastiches de la Bible, la génération du désert. C'est autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu échec, mais c'est un échec, je ne sais pas comment dire ça, c'est un échec glorieux, je ne sais pas comment dire. Je ne pense pas du tout à la génération contemporaine, mais enfin qui vit une interpellation à tous les niveaux, à peu près du même ordre. Il y a des interpellations que j'essaierai de définir comme ça. Dans tous les cas, une interpellation, c'est une interrogation. Mais il arrive que l'interrogation devienne un interrogatoire. Et alors, ce qui se dévoile par l'interrogatoire pourrait faire penser à un échec au plus bas niveau. En réalité, c'est un échec, mais à un très grand niveau. Je ne sais pas si je suis arrivé à expliquer l'idée que je voulais expliquer. Il y a un passage dans la Gemara qui discute très sérieusement du fait de savoir si Dora Midbar, la génération du désert, a droit au monde à venir ou pas. Et il y a les deux opinions, Alamaba. Il y a les deux opinions qui disent, bien sûr, qu'ils ont droit à Alamaba, bien que étant la génération du désert, et qui disent, non, ils n'ont pas droit à Alamaba. Et j'ai lu un commentaire qui explique, voilà ce qu'on a voulu dire, ils y ont déjà eu dans Roland Barthes. C'est à ce niveau-là qu'il faut les juger. Ça veut dire qu'il n'est plus question pour eux d'avoir notre petit Roland Barthes à nous. Vous savez, le Roland Barthes. C'est là, à ce niveau-là qu'il faut le comprendre. Bien, alors, nous allons d'abord lire quelques versets aux débuts de Trouma, aux débuts de Pécoudé, et ensuite, je ferai une introduction sur la portée du Mikdash, en reprenant un thème qui me semble extrêmement important, nous allons essayer de le mettre en forme ce soir, et puis tout le temps qui nous reste, on étudiera la question que j'ai indiquée tout à l'heure, qui est capable, susceptible de construire le Mishkan, de participer à la construction du Mishkan, Trouma, et à partir de quelle valeur? Bien. Alors, nous sommes au chapitre 25, verset 1. Tu peux m'apporter quelque chose là. Chapitre 25, verset 1. Alors, d'abord, Hachem et Moshe les mots, suivez bien. Et Dieu parla à Moïse en disant. Je vous signale, pour ceux qui ont le temps d'étudier, ça vaut la peine, des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'étudier, alors il faut du temps. C'est que nous avons quatre formules différentes pour introduire le commandement de la Torah. Soit Vayomer Elokim, soit Vayomer Elokim, soit Vayomer Hashem, soit Vayomer Hashem. Il faut quatre formules différentes. Alors, je vais poser une question. Peut-être qu'il nous faudra toute l'année pour la travailler. Comment comprendre la différence de nature des commandements qui sont introduits par Vayomer Elokim ou Vayomer Hashem, Vayomer Elokim ou Vayomer Hashem? Ces quatre catégories sont commandements de la Torah. Et dans toutes les Shulchan Aruch que nous avons, les poskim, les grands poskim, eh bien, il n'y a aucune différence de dignité d'être un parmi les 613 commandements. Pas de problème. Okay. Cependant, chaque commandement est introduit par une formule différente. La Dabor est une parole plus dure que Vayomer. Une des clés du Midrash. Vayomer, c'est à travers la Midat Adin. Vayomer, c'est Midat Rahamim. Elohim, c'est la Midat Adin, Hashem, c'est la Midat Rahamim. Mais ne croyez pas que c'est si simple que ça, sinon je ne l'aurais pas dit si simplement. C'est-à-dire, il y a là un thème d'étude, je vous avoue que j'ai ouvert encore aucun ouvrage. J'espère le trouver dans ma vie, peut-être qu'il se cache pour ça, pour que je vive longtemps, je ne sais pas. Mais,
Vous
ne cherchez pas assez. Oui, je ne cherche pas assez. Il me faut du temps pour ça, c'est ce que je vous dis. Et alors, si jamais vous avez une source à ce sujet, envoyez-moi un télégramme. En tout cas, pour revenir à notre problème, Vaidaber, Hachem et Moshe, les morts, et regardez l'humour de la formule, Vaidaber, les morts. Comme on a dit tout à l'heure, Vaidaber, c'est la Midat Adin, mais les morts, c'est la Midat Rahamim. D'abord, le béni Israël parle aux enfants d'Israël, et ils prendront pour moi une trouma et une contribution, dans le sens qu'on a vu déjà tout à l'heure. Je me propose, à mesure du temps que nous avons tout à l'heure, que nous aurons plus tard, d'étudier la forme dans laquelle Moïse devait transmettre ce commandement à Israël, en particulier par le fait que nous avons là une forme inhabituelle, je vous l'indique tout de suite, nous l'avons vu au cours précédent sur le Rav Kook. La forme normale, disons habituelle, c'est, ça aurait été, suivez bien sur le texte, d'abord Hachem et Moshe le mot, d'abord et béni Israël, Vea Marta Alehel, Kehu li Truma. Ça aurait dû apparemment être proposé comme un commandement direct. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, deux points ouvrez les guillemets, prenez pour moi une Truma. C'est bien clair. C'est vrai cette forme que nous avons là. Alors, tout à l'heure, on étudiera un peu plus en détail pourquoi ce changement de forme et comment ça peut contribuer à une compréhension plus profonde du sujet même de l'entrouma. Surtout, la question qu'ont posé les commentateurs, c'est on ne s'attend pas du tout au verbe de Veikru, mais Veiknu. Si on demande à quelqu'un une trouma, on lui dit donne une trouma, pas prends une trouma. Vous y êtes? Bon. Retenez bien ces questions. Mais être connu, chercher le bodhen au niveau. De tout homme que son corps porte à la générosité, à chéri devon au niveau, tikhu et teromati, vous prendrez ma trouma. Le tikhu et teromati éclaire un peu la question de veikhu et trouma de tout à l'heure. Je vais poser une question. Est-ce que tout le monde comprend les citations que je fais en hébreu une fois traduites une première fois ou les deux traduites chaque fois? Ça va? Donc, alors on avance. Il y a ici une indication particulière que c'est une mitzvah en particulier pour laquelle il faut une certaine kavana, c'est-à-dire une certaine intention. Celui dont l'intention n'est pas la nedava, la générosité, et nous verrons que ça va encore plus loin que cela, mais premièrement à ce niveau, n'aura pas réalisé cette mitzvah de participer par la Trouma, par cette contribution à la construction du Mishkan. C'est un cas particulier, que j'ai mis en évidence. C'est un problème pour lui-même de savoir si les mitzvot, pour être valables, authentiques, nécessitent une intention particulière ou pas. C'est un problème pour lui-même, je ne voudrais pas commencer à l'étudier, sinon on prendra trop de temps. Je dis tout simplement les deux principes. Le commencement de ce problème, c'est que bien évidemment, un acte est dénaturé s'il n'a pas son intention authentique. Mais ensuite, à travers l'histoire, la jurisprudence de la halakha va juger que nous ne sommes plus capables de ce niveau d'authenticité, et elle va donc habiliter, et ce n'est pas une tolérance, la Torah le prévoit comme authentique quand même et à un niveau, disons, plus faible d'authenticité, un acte, même s'il n'est pas sous-tendu par l'intention d'authenticité. Voilà un tout petit exemple, pour ne pas prendre trop de temps. Vous avez des juifs qui s'assimilent, qui se déjudaïsent si vous voulez, mais quand même il y a un certain nombre de mitzvot auxquels ils tiennent. Par exemple, faire circoncire leurs enfants. C'est vraiment une espèce de pudeur de juif assimilé qui consistera à dire c'est pas parce que la Torah le demande, c'est pas l'hygiène. Oui, on a changé de caravane. Oui. C'est quand même, il demande malgré tout, la plupart du temps, à un rabbin de le faire et pas un chirurgien. Mais enfin, quand même, il s'arrange pour que ce soit un chirurgien qui soit aussi rabbin, alors dirons c'est le chirurgien. Mais dans tous les cas, la circoncision est faite, elle est cachée, valable, gamarde. Okay. Mais on peut comprendre un niveau d'authenticité ou a priori, si un acte n'est pas agi d'une part à partir de la kavana, de l'ishma de cet acte, de l'authenticité de cet acte, l'acte ne serait pas valable. Voilà à quel point nous sommes devenus dilués et comment dire, objets de tolérance, si j'ose dire. Sauf pour le cas où l'acte consiste dans l'intention. Alors évidemment, si l'intention n'est pas là, l'acte est complètement dénaturé. En particulier, sur toutes les mitzvot qui se font par la parole. Si je ne pense pas à ce que je dis dans le sens de ce que je dis, j'ai rien dit. D'ailleurs, il n'y a même pas d'acte. Je pense que c'est d'acte. Mais si on étudie cette question pour la prière ou pour Kriyat Shema, où ça a été enseigné, on verra que même là, la tolérance a été poussée au dernier degré. Par exemple, même si je ne comprends pas ce que je dis, l'essentiel, c'est que je ne fasse pas de faute d'orthographe en parlant. Ça va jusque-là. Par exemple, pour Kriyat Shema, à quelles conditions c'est authentique si je n'ai pas fait de faute? Et la question, est-ce que j'ai vraiment compris ce que j'ai dit? Je vous ai souvent cité ça, mes maîtres me disaient, toi tu n'as pas compris, mais ton âme a compris, ça suffit. Au moins que les choses soient dites exactement. Donc jusqu'où on a poussé donc la tolérance. Et ensuite, les autres trauma, Shirti Krouma et Tam, et voici la trauma que vous prendrez d'eux, de qui eux, mais être colis, chercher les démons au de tout homme qui est porté par son cœur à donner cette trouma, à participer à ce que nous allons essayer d'apprendre, la construction du Migdash. Zahav va chesser fun chochet. De l'or, de l'argent et nechochet de. Je crois qu'on peut traduire les deux, soit le cuivre, soit le bronze. Je pense qu'il y a un autre terme, ça m'échappe.
Les reins.
Et qu'est-ce que c'est les reins? C'est le bronze. Donc, Utrebog Vargaman, des étoffes bleues et pourpres, pourpre c'est le Tola Hachani, des étoffes bleues et rouges, écarlates, le Tola Hachani est teinte en poudre, c'était la poudre d'un verre Tola qui était rouge. Tola. Des choses réalisées et des tissus tressés de six fils, chèches, réalisées et de peaux de chèvre. De rotelim d'amine, bon, toute une énumération de matériaux propres à la construction du Mishkan. Et derrière les matériaux, il y a d'abord le pshat. Pour faire un Mishkan, il faut d'abord des matériaux. De la manière que pour faire une personne douée d'une âme, il faut un corps. C'est évident. Voilà, il est évident aussi que le corps est le véhicule d'une âme. Et que pas n'importe quel corps peut être véhicule de n'importe quelle valeur d'âme. Et que pas n'importe quelle âme ne vient dans n'importe quel corps. La shrina ne peut venir que dans un mishkan approprié. Donc il y a une science des matériaux du mishkan. Avec leur signification de valeur. J'ai simplement vous indiquer un des midrashim, mais retenez-le bien parce qu'on en profitera dans l'étude tout à l'heure des deux projets du Mishkan, et qui se trouve sur un verset, un peu plus loin dans la paracha. C'est le verset 15 du chapitre 26. Il ne fallait pas tant le chercher, notez-le. Ce midrash dit ceci. Maktiv le mal. Les autres, la trouma, achetit chumaitam. Et voici la trouma que vous prendrez de leur part. Zahav, va kesef une crochette. De l'or, de l'argent et de l'airain. Du bronze. Zahav, zou Babel. Est-ce que le midrash nous dit Zahav, ça, c'est la civilisation de Babel. Parce qu'on a trouvé un verset qui définit Babel avec des valeurs d'or. En valeur d'or. De chesef, zou Madaï. L'argent, ça c'est Madaï, la Médie. C'est-à-dire la Perse. Okay. Effectivement, puisqu'on trouve à propos de la Perse un verset, je ne vous donne pas toutes les éditions du Midrash, un verset qui fait allusion à ce que la valeur des valeurs de cette manière d'être une civilisation s'appelle l'argent. Mais Rochette Zou Yavan,